9h-9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le 25 avril 1930, dans la salle pleine à craquer du Carnegie Hall, les New Yorkais assistent à un concert pas comme les autres, le concert d'un musicien qui arrive d'Union soviétique pour présenter sa toute nouvelle invention. Sur la scène, le son qu'il émet paraît étrange. Au premier abord, on pourrait croire à du violoncelle, pourquoi pas même peut-être à une voix humaine, mais alors une voix étonnante, presque effrayante. Le son paraît venir d'une autre planète. Les notes émanent en réalité d'un instrument qui se joue sans qu'on ait besoin de le toucher. Un instrument dont on joue à distance d'une certaine manière. Imaginez derrière un drôle d'appareil doté d'une antenne, un Russe en smoking à la fine moustache et qui brasse l'espace vide, un peu comme s'il caressait des cordes invisibles, si vous voulez. Et le son, qui d'abord est un petit peu hésitant, plaintif, s'affirme peu à peu, se fait envoûtant, vibrant, devient pur, comme s'il émanait des mains, des doigts, comme s'il émanait de l'invisible. Or, il y a encore plus étonnant que l'instrument lui-même. Ce qu'il y a de vraiment étonnant dans cette affaire, c'est l'histoire de l'inventeur. Il n'est pas seulement question d'invention et de musique aujourd'hui, vous allez le voir, il est aussi question de politique, d'arrestation et d'espionnage. Je vous propose de revenir à l'orée du XXe siècle. Nous sommes en Russie, à Saint-Pétersbourg, donc sur les bords de la Neva, dans l'enceinte du premier gymnasium classique. Il y a là, parmi les élèves, un jeune garçon à la curiosité absolument insatiable. Depuis son plus jeune âge, il témoigne de prédispositions manifestes à l'ingénierie. À 6 ans, dites-vous que ce gamin savait démonter puis remonter la montre de son grand-père. Il s'est passionné très tôt pour la physique, pour l'électronique et la chimie, mais aussi pour la musique, parce qu'il joue du violoncelle avec beaucoup de sensibilité. Ce garçon, sur les bancs du lycée, montre qu'il a la trempe d'un grand inventeur. Il rêve de devenir ingénieur. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, il s'appelle Lev Sergeyevitch Termen. Il ne va pas tarder à réaliser son rêve, Termen, puisqu'en 1919, on le retrouve à l'Institut Physico-Technique, qui est un des plus grands centres de recherche russes. Alors, évidemment, entre-temps, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, Petrograd est devenu une espèce de creuset pour tous les grands cerveaux du pays qui ont été réquisitionnés. Et puis, il y a eu aussi la Révolution de 1917. Dans le célèbre institut de physique, cet institut physico-technique, Lev Sergeyevitch va rapidement prendre la tête d'un nouveau laboratoire de recherche. C'est une sorte de visionnaire, si vous voulez. Il est agité d'une curiosité infinie. Il travaille sur les ondes radio, sur la capacité du corps humain à conduire l'électricité. Vous voyez qu'on s'en rapproche. Il cherche comment déjouer les mouvements qui peuvent parasiter les ondes. Et oui, n'oubliez pas qu'on est en pleine expansion de la radiophonie à l'époque. Ça nous concerne, ça. C'est lui aussi qui, au passage, va inventer l'alarme anti-intrusion. Mais oui. Un jour de 1919, en passant sa main devant un champ électromagnétique, il se rend compte en effet que les mouvements de sa main simplement produisent des sons. Immédiatement, il alerte son supérieur hiérarchique, qui s'appelle Abraham Yoffe. Ce dernier s'émerveille du son inhabituel qu'arrive à tirer de l'appareil le jeune physicien. Ça lui fait penser, dit-il, à une lamentation d'Orphée électronique. Lev Sergeyevitch Termen vient d'inventer l'hétérophone que bientôt on va perfectionner, on va rebaptiser Theremin Vox et puis finalement simplement Theremin. La nouvelle invention, il faut la perfectionner encore. Bientôt, on va voir Lev Sergeyevitch pouvoir jouer toutes les notes de la gamme et faire varier l'intensité, le volume. L'instrument devient une sorte de boîtier aux allures de pupitre à l'intérieur duquel Termen a dissimulé les circuits électriques. Il équipe tout ça de 2 antennes. Et maintenant, lorsque l'ingénieur déplace sa main vers l'antenne horizontale de l'appareil, eh bien, les notes changent. Et lorsqu'il déplace sa main gauche vers l'antenne verticale, c'est le volume qui change. Lev Termen vient de rendre les ondes musicales, tout simplement. En 1922, l'ingénieur a l'honneur de pouvoir présenter son invention devant Lénine en personne. « Cet instrument est une nouveauté dans son genre », prévient-il. « Le son est produit par la perturbation de son champ magnétique ». Voilà donc notre inventeur derrière le boîtier qui s'attelle à une démonstration de l'instrument sous les yeux écarquillés de Lénine. Termen allume l'appareil, il lève le bras droit puis le bras gauche un peu comme un chef d'orchestre, les mains suspendues en l'air en silence et puis là soudain, sans qu'il ait touché à quoi que ce soit, eh bien il va dans l'espace aller cueillir des notes les unes après les autres comme des perles nacrées lancées sur un fil invisible, nous dit Mathilde Hirsch qui a préparé l'émission d'aujourd'hui. Une mélodie envoûtante, une sorte de, un peu comme un ululement, quelque chose d'assez fantomatique, un vibrato frémissant, une musique qui a l'air de venir d'ailleurs, qui est complètement futuriste et qui est assez hypnotisante pour tout vous dire, et un peu effrayante aussi, il faut le dire. Dès que le morceau est terminé, Lev Sergeyevitch lève timidement les yeux vers Lénine. Sous ses sourcils épais, le chef d'État a les yeux qui pétillent. Lénine sourit de toutes ses dents, si je puis dire. Il est conquis, il demande même à essayer l'instrument lui-même. Alors, l'ingénieur lui apprend à jouer les premières notes de l'Alouette de Myril Glinka, une œuvre que Lénine adore. Et on va voir Lénine s'intéresser de près à cette affaire. Il y voit non seulement une révolution dans la manière de faire de la musique par le biais de l'électricité, mais aussi un excellent moyen de propagande, bien sûr, pour aller démontrer partout dans le monde entier, sur la planète entière, la suprématie de la science russe, n'est-ce pas ? On va glisser à Termen dans le creux de l'oreille, le communisme, c'est le socialisme mélangé à l'électricité. Voilà une définition que lui a donnée Lénine. Le communisme, c'est le socialisme mélangé à l'électricité. En plus de commander 600 exemplaires de l'instrument pour les écoles russes, Lénine envoie l'inventeur sillonner l'URSS afin de faire découvrir à tous les citoyens, le Térémine, grand succès évidemment, et puis un succès tel que bientôt, eh bien, on va l'envoyer en Europe, on va l'envoyer aux États-Unis. Est-ce que c'est la gloire annoncée pour Lev Sergeyevitch ? En fait, pas tout à fait, je dirais même pas du tout, puisque ces bonnes ondes vont finir par le desservir totalement. De l'âge d'or de Dmitri Shostakovich, l'orchestre philharmonique de New York était sous la direction de Leonard Bernstein. Alors on va retrouver Térémine à New York justement dans quelques instants. Dans un premier temps, après avoir parcouru la Russie, on le voit sillonner l'Europe. Notamment, il va donner un concert qui est resté célèbre en décembre 1927 à la salle Gaveau. Vous imaginez cette salle Gaveau que nous connaissons bien, remplie de curieux qui viennent écouter pour la première fois cet instrument. Et puis donc, il part ensuite pour les États-Unis sur le bateau qui traverse l'Atlantique en ce mois de décembre 1928. Lev Sergeyevitch ressent une excitation extraordinaire. Il avait depuis longtemps envie d'être aux États-Unis. Le voilà à New York. Il va d'ailleurs américaniser son nom en Léon Termine, vont dire les New-Yorkais. Ses concerts ont un grand retentissement. La presse est dithyrambique. On vante les harmonies génie des ondes éthérées, le prophète de la musique électronique du futur, Soviet Edison takes music from air, écrit un journal. Une musique nouvelle qui a l'air d'être un peu sculptée dans l'air, inventée par un Edison soviétique. Les vibratos envoûtants, les glissando, les staccato, je devrais dire les staccati, on dirait un spectacle de prestidigitation. Voici d'ailleurs un enregistrement d'époque. Je vous propose d'entendre d'abord la voix de Lev Sergeyevitch lui-même et puis quelques notes de son instrument.
Электромузыкальный инструмент Терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Accent plaintif du thérémine, vibrant également. Hein. C'est un instrument qui paraît complètement magique à l'époque, surtout lorsque de grands interprètes s'en emparent. C'est le cas de Clara Rockmore. Clara Rockmore est une jeune femme aux cheveux tressés, surmontés d'un turban et d'un diadème, qui vient maintenant jouer de l'instrument et qui va interpréter sur cet instrument des partitas de Bach ou le cygne de Saint-Saëns, des morceaux classiques qu'elle fait vibrer de ses mains délicates. Il faut dire que Clara a grandi à Saint-Pétersbourg, qu'elle a été enfant un petit prodige du violon et qu'elle a dû abandonner cet instrument à cause d'une maladie osseuse, ce qui fait que pour elle, le thérémine a été comme une sorte de libération. Et comme elle a l'oreille absolue qui lui permet d'entendre parfaitement les demi-tons, les quarts de tons, les huitièmes de tons, eh bien elle arrive à tirer du thérémine des sons d'une infinie délicatesse. Et Léon Thérémine est tombé lui-même sous le charme de Clara, qui l'emmène régulièrement danser dans ce New York des années folles. Pour son anniversaire, il va même faire une chose magnifique, il lui prépare un gâteau dont la bougie électrique est reliée à un thérémine. Et chaque fois que Clara s'approche pour souffler la dite bougie, eh bien, il en sort une mélodie nouvelle. Leur passion va rester platonique. Hein. D'ailleurs, Léon tombe assez vite amoureux d'une danseuse afro-américaine qu'il va d'ailleurs épouser. Dans son appartement, il habite sur la 54e rue, il est à deux pas de Broadway, il donne des cours de thérémine à quelques élèves, tout ça dans le monde huppé de la société new-yorkaise très lancée. D'ailleurs, il reçoit régulièrement Gershwin, Schillinger, Glenn Miller. Il s'est même recréé un laboratoire où il invente de nouveaux objets, un berceau équipé d'ultrasons pour qu'on ne kidnappe plus les bébés. Ça, c'est une allusion directe à ce qui s'est passé avec le bébé Lindbergh. Des murs tapissés de câbles à mettre dans les prisons pour empêcher les évasions. Également le Rhythmicon, qui est une version du thérémine où le corps entier d'un danseur devient en quelque sorte l'instrument. C'est assez extraordinaire. Les publicités de la RCA tentent de commercialiser les différentes inventions de ce monsieur. Et puis, un jour de 1938, alors que Léon vit maintenant depuis 10 ans à New York, qu'il a complètement oublié l'Union soviétique qui l'avait envoyé en mission, si je puis dire, deux personnes entrent dans son appartement, où ce sont deux hommes à l'accent russe, au fort accent qu'il pousse à l'extérieur. Il a un pistolet braqué dans le dos, Léon disparaît, il ne laisse aucune trace. Vous imaginez l'affolement de son épouse qui part à sa recherche. Clara Rockmore, ses amis, ses connaissances, tout le monde se met à le chercher, rien. Léon Thérémine s'est comme évaporé et officiellement, on va finir par annoncer sa mort. On l'oublie, qu'est-ce que vous voulez ? Il va devenir un souvenir cuisant, puis un vieux souvenir. Sa femme finira, elle aussi, par arrêter les recherches et par faire son deuil. Quant à Clara Rockmore, elle continuera de faire vivre la mémoire de Thérémine lors de récitals où elle interprète toujours Bach avec des sonorités comme ça un peu fantomatiques. Dans les années 40, d'ailleurs, le son nouveau va séduire Hollywood. Tout ce qui est nouveau séduit toujours Hollywood. Et ça permettra d'accompagner désormais certains films, notamment des films d'Hitchcock ou des films de science-fiction. Les ondes magnétiques deviennent associées aux ovnis. C'est la grande époque, la grande mode des soucoupes volantes aux États-Unis. Bref, Clara a regretté la tournure un peu hollywoodienne que les choses avaient prise. Hollywood veut simplement effrayer avec le son, dit-elle. C'est réducteur, je ne souhaite pas cela, moi je veux jouer Bach. Elle n'a pas perdu l'espoir, Clara, de retrouver un jour le génial inventeur. Alors, qu'est-il devenu, notre Lev Sergeyevitch? Est-ce qu'il est vraiment mort? Les rumeurs commencent à courir selon lesquelles il aurait été purement et simplement liquidé par le KGB. Son nom a été effacé des dictionnaires russes et des articles soviétiques. On pourrait dire qu'il est une des premières victimes de la guerre froide, à moins que... En 1947, Clara Rockmore est en voyage en URSS, pas tout à fait par hasard si vous voulez mon avis, et dans un bus, elle va surprendre une conversation, un scientifique est en train d'affirmer que Theremin serait encore vivant. Et plus tard, un correspondant du New York Times à Moscou affirme avoir reconnu l'inventeur dans une rue de la capitale soviétique. Composé par Alfred Schnittke pour le film d'Alexander Sarchi, l'histoire d'un acteur inconnu. C'est donc à Moscou que Clara Rockmore va retrouver la trace de Léon Theremin. Elle en a entendu parler dans un bus, elle va chercher à le retrouver, elle le retrouve, elle arrange un rendez-vous secret. Alors évidemment, l'homme n'est plus le même. Il a les traits bien abîmés, les joues creusées, les yeux incroyablement cernés à voix basse. Sans regarder Clara pour ne pas trop attirer les soupçons, on est dans une Union soviétique à l'époque où le moindre comportement déviant est immédiatement signalé. Il raconte son histoire. Il raconte comment il s'est fait enlever aux États-Unis donc par deux agents du NKVD, la police secrète soviétique. Comment, de force, on l'a ramené en URSS. On l'a envoyé dans un camp en Sibérie, dans la région subarctique de Kolyma, à l'extrême est de la Russie, là-bas, à Magadan, le goulag stalinien, au milieu d'une plaine désertique et dans des conditions extrêmes, dans un froid incroyable. Il a construit des voies ferrées pendant 7 années. Il était d'une résistance incroyable, cet homme, finalement. Et puis, on l'a emmené dans ce qu'on appelle un charashka, c'est-à-dire un camp spécial pour scientifiques, où étaient créés des laboratoires surveillés par la police et où on essayait de fabriquer de nouvelles choses. Donc, il va fabriquer, lui, des appareils d'espionnage. On lui a demandé de poursuivre ses travaux sous la contrainte. Il a inventé un nouvel appareil qui s'appelle le Buran, qui est un instrument qui permet de placer n'importe qui sur écoute. Quand je dis n'importe qui, même Staline, figurez-vous. Pendant 8 ans, Léon ainsi a enregistré sur des bandes magnétiques les conversations du dictateur. Et secrètement, dans sa chambre, il ne perdait pas tout à fait l'espoir de renouer un jour avec la vie qu'il avait autrefois connue. Il continuait de construire des thérémines avec des boîtes de conserve dont certaines étaient rouillées. Et à chaque fois qu'on découvrait l'instrument, bien à chaque fois, on le détruisait sous ses yeux, bien sûr. En 1947, il a quand même été autorisé à sortir du goulag. Il a obtenu un appartement à Moscou avec une femme de ménage et même reçu le prix Staline des arts et des sciences. À l'époque, il travaillait complètement pour les services secrets. Hein. Et Léon va faire promettre à Clara, qui vient de le retrouver, donc, de ne surtout pas ébruiter sa survie. Elle promet tout ce qu'il veut et elle rentre aux États-Unis. Et voilà que quelques années plus tard, un long article paraît dans le New York Times sur le héros Theremin qui serait toujours vivant. Quelques jours plus tard, on le renvoie au goulag. C'est exactement ce qu'il avait craint. Eh bien, c'est ce qui se passe. Et il ne sortira du goulag, cet homme-là, qu'à la chute de l'Union soviétique en 1989. Il aura tout ignoré du succès de son instrument à Hollywood et de l'avènement, là-bas, outre-Atlantique, de la musique électronique. Pour la première fois, après 50 longues années, il va quand même pouvoir retourner aux États-Unis et retrouver Clara. Les deux musiciens sont devenus des vieillards. Theremin a une longue barbe blanche, Clara est devenue une vieille dame au visage très ridé, mais au milieu duquel saillent toujours ses deux yeux clairs tellement pétillants. Dans New York, ils se promènent, ces deux vieillards, les yeux embués. Clara se tourne vers Léon et lui dit « Vous êtes comme un rêve incarné ». Un peu plus tard, elle lui offrira le térémide qu'il lui avait lui-même donné en 1928. Et tous les deux vont se mettre à jouer, tant et tant d'années plus tard, brassant de leurs doigts l'air invisible, ils vont improviser une mélodie féerique. Non moins féerique, notre Christian Morin. Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck, et encore vous ne voyez pas tous les gestes que je fais pour que nous entendions votre indicatif, hein, signé par Ennio Morricone. Alors justement, vous avez réveillé des souvenirs pour moi à la radio. Beaucoup plus jeune, on entendait les structures sonores Lasserie Bachet. C'était les compositeurs Jacques et Yvonne Lasserie, que vous connaissez, et Bernard et François, les frères Bachet. Mm-hmm. C'était le son et la forme. C'est une espèce d'orgue de cristal, un petit peu.
Oui, c'est ça, c'est un thérémine, alors plus mécanique, moins électromagnétique.
Oui, exactement, qui est passé de 2 octaves et demi en 55 à 5 octaves en 2010. Alors, contemporain, bien sûr, de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry. Et figurez-vous que j'ai rencontré Pierre Henry, car en 1971, il avait mis en musique le Cortical Art de Roger Lafosse, qui était le fondateur, le créateur de Sigma, ce festival d'avant-garde culturelle à Bordeaux. Et j'ai eu l'honneur, pour cette musique, de faire, en tant que jeune graphiste, la pochette de cet album qui était sorti chez Philips. Mais j'ai une petite surprise de surcroît. On branchait des ondes électriques. C'est les ondes électriques du cerveau que l'on transformait en ondes électroniques. Des électrodes étaient branchées sur la tête de Pierre Henry et voilà le résultat.
Mais ça, alors, ça ressemble à une imprimante mal réglée. Mais...
oui, ça n'a rien à voir avec le biset qu'on entendra tout à l'heure, bien sûr. Non. Mais imaginons qu'un jour, on mette des électrodes branchées sur la tête de Franck Ferrand au moment où il nous racontera ses histoires, soit à 9h, soit à 14h, je serais curieux d'en entendre le résultat.
Et puisque à mon avis, ça ne donnera pas forcément des choses très harmonieuses.
Sait-on jamais, vous savez, imaginez des cordes derrière, vous pourriez partir en tournée, comme vous le faites déjà, à 14h justement, à propos du deuxième rendez-vous. Cet après-midi, alors on change de sujet, c'est un sujet beaucoup plus
grave.
On
ira dans les années 80, oui.
Dans les années 80, racontez-nous, c'était sous la période de Madame Thatcher.
Hein. Oui, c'était un des faits d'armes de Margaret Thatcher. Vous savez, c'était la lutte de l'Angleterre de l'époque contre l'IRA, bien sûr, l'armée républicaine irlandaise.
Bien sûr. Alors, à tout à l'heure, 14h, et évidemment, demain matin, pour notre croisement matinal. Une sorte de gymnastique radiophonique, tous les deux. Merci Franck.
Avec joie, bonne journée.